20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Elle a triomphé cet automne dans le cadre de grands concours internationaux, remportant ainsi coup sur coup la Paris Opera Competition et le concours Voix Nouvelle. À seulement 23 ans, la soprano Lauren Oliva s'impose comme l'une des nouvelles étoiles de l'art lyrique. Elle a d'ailleurs été nommée dans la catégorie Révélation lyrique des Victoires de la musique. Alors elle chante Pamina en ce moment dans La Petite Flûte, cette version pour jeune public de La Flûte Enchantée de Mozart au Théâtre des Champs-Élysées. Je suis allée la rencontrer à cette occasion. Une interview que nous écouterons tout à l'heure. Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra ensuite pour nous dresser le portrait d'un autre artiste de la nouvelle génération. Mais avant cela, comme chaque soir, quelques autres nouvelles du monde musical. Alors qu'elle s'apprête à chanter pour l'ouverture du grand bal de l'Opéra de Vienne, Elina Garanza s'est-elle confiée à une station de radio autrichienne et a évoqué la prochaine fin de sa carrière. Je vais probablement chanter encore quelques années, mais avec toute l'expérience que j'ai acquise, j'ai surtout envie de transmettre aux autres. Avouée, la mezzo-soprano lettonne, qui chante depuis 25 ans déjà, et envisage même, avec un certain humour, une reconversion dans la décoration intérieure ou la pâtisserie. C'est à lire sur le site et l'application de Radio Classique, un article signé Philippe Gault. L'Académie musicale Philippe Jaroussky vient d'ouvrir les inscriptions en ligne pour sa nouvelle promotion. Elle s'appellera la promotion Lily et Nadia Boulanger et se tiendra durant la saison 2024-2025. Avec la même équipe pédagogique, à savoir le violoniste Nemanja Radulovic, le pianiste Cédric Tiberghien, la violoncelliste Anne Gastinel et le chanteur Philippe Jaroussky. Alors le dépôt de dossier de candidature se fait sur le site de l'Académie Jaroussky et vous avez jusqu'au 1er avril. Nikolaï Louganski sera à Strasbourg au Palais de la Musique et des Congrès vendredi soir avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et Marco Lettonia. Il jouera le deuxième concerto pour piano de Rachmaninov, l'un de ses compositeurs fétiches. Un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique. Et j'en profite pour vous rappeler ou vous informer que vous pouvez désormais écouter Radio Classique depuis Strasbourg grâce au DAB+. C'est un peu l'équivalent de la TNT pour la radio. Avec une qualité de son comparable au CD et puis surtout une continuité d'écoute en voiture, fini les grésillements. Alors vous pourrez ainsi profiter depuis Strasbourg et ailleurs de ce deuxième concerto de Rachmaninov par Nikolaï Louganski que nous diffuserons le 3 mars sur Radio Classique. Nikolaï Louganski se produira de nouveau sur une scène française mais en récital cette fois-ci le 27 mars au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis d'ici là, il viendra passer un moment avec nous dans ce journal du classique. Sortira également dans quelques semaines son nouvel album dédié à Wagner, dont je vous propose d'écouter quelques notes en avant-première. Dédié au Valhalla de Richard Wagner dans un arrangement pour piano. C'est un extrait du tout nouvel album de Nikolaï Louganski, un album qui paraîtra au mois de mars chez Harmonia Mundi. D'ici là, Nikolaï Louganski sera en concert vendredi soir à Strasbourg avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et Marco Lettonia.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Elle chante Pamina en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées dans ce spectacle participatif conçu pour le jeune public, une version abrégée et en français de La Flûte Enchantée, mise en scène par Julie Depardieu, à découvrir jusqu'à dimanche. La soprano franco-catalane Lauren Oliva, originaire de Perpignan, compte parmi les belles révélations du chant français et vient d'entamer une carrière qui s'annonce des plus prometteuses. Alors, se confronter ici au jeune public est pour elle une expérience particulièrement enrichissante, comme elle me l'a confié lorsque je suis allée la rencontrer au Théâtre des Champs-Élysées entre deux représentations pour les scolaires, pour parler de son parcours et de ses projets.
C'est très particulier parce que le public est pas moins exigeant, c'est un public d'enfants, donc beaucoup de réactions, énormément de rires, de cris, de conseils aussi, ils n'hésitent pas à intervenir en plein milieu du spectacle, donc pour nous c'est un exercice au niveau du travail intéressant parce qu'il faut avancer, il faut qu'on fournisse quand même un spectacle. Mais bien sûr, on serait ravis de s'arrêter, de discuter avec eux, de répondre à leurs questions, de leur dire « ne vous inquiétez pas, la princesse va être sauvée », mais bon, c'est souvent pas le moment, il faut attendre la fin. Donc oui, très particulier, cet opéra participatif, très important aussi parce que je pense que, surtout par rapport à moi, à mon âge, c'est une mission de transmettre, une mission de faire perdurer ce métier, de faire connaître cet art qui est si sublime, en fait, tout simplement. Donc, un vrai devoir de transmettre et de pouvoir donner ça aux enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'aller à l'opéra, d'écouter ce genre d'histoire, de les devoir, d'écouter. Donc, très important pour moi, en tout cas.
Et comment justement cette flûte enchantée a-t-elle été adaptée pour les enfants ? Déjà, c'est une version plus courte, les textes sont en français.
Oui, c'est ça, c'est une réécriture, donc on a écourté évidemment, on n'a pas fait 3 heures d'opéra, c'est devenu 1h15, on a essayé de garder les mêmes relations. On a quand même un petit peu changé l'histoire, on a en fait recréé une histoire un peu plus simple, et puis une adaptation assez géniale, parce que c'est une adaptation pour les enfants malentendants, malvoyants, des enfants avec des handicaps. Ils ont adapté des petits livrets, un petit programme avec une BD qui explique l'histoire, donc c'est très agréable de lire ça. D'ailleurs, il faudrait faire ça à chaque fois, les livrets, exactement, même pour les grands, adapter des livrets en BD, je trouve ça super.
Alors, c'est une production destinée à former le public de demain, à faire découvrir et aimer l'opéra aux enfants. Est-ce que vous vous rappelez, Lauren Oliva, de votre première fois à l'opéra, de la première fois que vous avez été touchée par cet art ?
Oui, alors moi je viens du sud de la France, donc des très grandes maisons vers Perpignan, des maisons d'opéra, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, j'ai eu la chance d'aller écouter Tosca en retransmission du Met au cinéma. Ce qui se fait toujours, hein, et ils organisent toujours de très très belles retransmissions. J'y suis allée, j'étais assez jeune, je devais avoir 15 ans, j'y suis allée avec mon professeur et ma maman. Et bon, je suis entrée dans le vif du sujet, hein, parce que 3 heures d'opéra comme Tosca, opéra seria, une expérience assez incroyable et une première réaction très pleureuse. J'ai pleuré de A à Z et je me suis dit en sortant de la salle, ça je le dis souvent, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, je peux pas faire autre chose, c'est ça que je veux faire.
Et à partir de ce moment-là, vous avez décidé de devenir chanteuse lyrique ?
Oui, c'était un peu le cœur qui disait ça, la tête. Et puis, il y avait le côté, un peu scientifique de mes parents, mon côté scientifique aussi. Je voulais être chirurgien, je voulais partir dans des études de médecine. Donc, c'était un peu le cœur, la tête, les envies, les idées qui étaient en compétition. Et puis, je pense que ça s'est quand même décidé à la dernière minute. Un petit peu avant le bac, j'ai dit à mes parents, il faut qu'on discute. La fameuse phrase, il faut qu'on discute. Je suis pas sûre de vouloir partir en médecine, vouloir donner autant de temps à la médecine uniquement, prioriser cette profession-là et abandonner complètement la musique, je pense que je pourrais pas y survivre. Glück.
Alors, vous chantez Pamina dans cette production ici au Théâtre des Champs-Élysées, Laurane Oliva. Est-ce que c'est votre première Pamina déjà ?
Oui, c'est ma première Pamina, exactement. J'ai travaillé le rôle en allemand, donc le rôle original. Mais en effet, je ne l'ai jamais, j'ai jamais pu l'interpréter encore. J'espère que ça viendra. Mais donc, c'est une première Pamina, donc c'est important pour moi. D'autant plus que c'est une Pamina que je comprends quand même énormément, puisque c'est dans ma langue maternelle, hein, donc c'est une autre, un autre exercice, mais ma première Pamina au TCE, je suis très contente. Ouais.
Et qu'est-ce que Mozart représente pour vous ? Est-ce que c'est un compositeur que vous avez envie de chanter, que vous avez peut-être déjà chanté, et avec, surtout un compositeur avec lequel vous vous sentez bien ?
Bien sûr, c'est un compositeur que j'apprécie beaucoup, c'est un compositeur qui a écrit beaucoup, qui a écrit dans des thèmes qui sont finalement très actuels. C'est indémodable pour moi, Mozart. Et surtout au niveau du style, au niveau de l'écriture, c'est très formateur. Et moi qui suis très jeune, qui ai tout à apprendre, ça m'apprend énormément au niveau vocal, au niveau stylistique ou même au niveau de l'interprétation des rôles. C'est très formateur.
Et quels sont les rôles mozartiens que vous avez déjà chantés ?
J'ai déjà chanté Suzanne dans une petite adaptation aussi des Noces de Figaro. J'ai chanté Zerline aussi dans Don Giovanni. Voilà, pour l'instant, je suis encore dans l'apprentissage de ces rôles-là, de soubrettes, qui sont des rôles de très jeunes filles. Et j'espère que ça va continuer.
Alors, vous avez fait sensation il y a quelques mois, cet automne, Laurane Oliva, en remportant coup sur coup la Paris Opera Competition et puis le concours Voix Nouvelle, des grands concours internationaux consacrés à l'art lyrique. Vous êtes nommée dans la catégorie Révélation aux Victoires de la Musique. Comment avez-vous vécu, comment vivez-vous ce tourbillon, si on peut parler d'un tourbillon pour vous ?
Je suis très contente, évidemment, c'est un honneur pour moi, c'est aussi le résultat d'un long travail, parce qu'on oublie souvent qu'il faut travailler, et donc c'est une belle récompense, et j'en suis très très honorée. Après, dans nos carrières, je pense qu'on n'a pas trop le temps de se poser des questions, et on est souvent bien occupé, il y a beaucoup de travail, on est tout le temps en train de retravailler la technique, les rôles, il faut aller de l'avant, donc je ne sais pas vraiment si j'ai vraiment eu le temps de réaliser, mais c'est beaucoup de plaisir, et voilà, un vrai résultat, donc je suis très heureuse.
Vous avez déjà été remarqué depuis quelques années par différents chefs d'orchestre, et notamment Emilio González Toro, qui a été l'un des premiers à croire en votre talent. Laurent Oliva, qui vous a fait chanter entre autres la musique de Monteverdi, le retour d'Ulysse. C'est l'un de ceux qui ont le plus compté dans votre compagnonnage, dans votre début de carrière.
Bien sûr, Emiliano, il m'a permis de faire mes premiers pas dans le monde du baroque. Donc c'est quelque chose pour moi qui n'a pas de prix, c'est un style que je ne connais pas, c'est un style que j'aimerais connaître. Et il m'a donné l'opportunité donc de faire mes premiers pas sur la musique de Monteverdi, le retour d'Ulysse, avec un enregistrement après la tournée. Donc ça a été pour moi, encore une fois, très formateur, très instructif. Et puis il m'a beaucoup donné, même dans la méthodologie et dans le travail même d'une partition, Emiliano comme sa femme Mathilde Etienne, qui m'a énormément aidé à construire mes rôles, à construire l'interprétation de certaines jeunes filles comme Gilda. C'est elle qui m'a formée surtout pour mes concours. Et Emiliano plutôt dans le côté voilà, musical, style. C'est deux personnes qui comptent beaucoup pour moi.
Alors vous avez chanté notamment sur Retour d'Ulysse ici au Théâtre des Champs-Élysées, où vous chantez Mozart en ce moment, Laurent Oliva, où vous reviendrez au mois de mai pour chanter du répertoire baroque en compagnie d'autres artistes comme Eva Zajcik. C'est une salle où vous avez déjà de beaux souvenirs, où vous vous sentez bien.
C'est vrai, bon, ça me fait bizarre de dire que j'ai des beaux souvenirs parce que bon, je suis toute jeune et j'ai pas une très grande expérience, mais j'ai déjà, oui, de très beaux souvenirs de cette belle maison avec le concours. J'en aurai aussi d'ici là avec cette petite flûte. Donc oui, très heureuse de revenir pour ce gala baroque et découvrir, travailler d'autres compositeurs. J'ai pas encore eu l'occasion de travailler leur musique, donc très belle occasion.
Alors ce sera au mois de mai, d'ici là, vous partirez à Vienne chanter la musique de Salieri, un opéra de Salieri avec Christophe Rousset. Ce sera, je crois, votre première expérience avec Christophe Rousset. C'est un chef qui fait merveilleusement travailler les chanteurs. Vous attendez ce moment, cette collaboration avec Christophe Rousset avec impatience ?
Ah oui, grandement, avec impatience, bien sûr. J'ai beaucoup entendu parler de lui. Et puis, je suis d'autant plus très, très, très heureuse de pouvoir travailler une partition qui n'a pratiquement jamais été donnée, pas enregistrée. Donc, il y a tout à faire, tout à construire, tout à apprendre. C'est un régal.
Ce sera donc à Vienne, la musique de Salieri. Et ensuite, quels sont les autres projets à venir pour vous cette saison ?
Eh bien, un peu de temps après, j'aurai une interprétation, une réécriture de Louise de Charpentier au Comique, à l'Opéra Comique, où je chanterai donc le rôle-titre avec Léo Vermont-Desroches, que je connais bien. On s'est croisés plusieurs fois, donc je suis très, très contente de le retrouver. C'est un chanteur que j'admire beaucoup. Donc voilà, encore une expérience avec cette fois-ci, un rôle un peu plus lyrique, plus épais, plus profond, dans un petit accompagnement, un petit orchestre, un petit ensemble. Donc moins dangereux, évidemment. Louise de Charpentier, c'est beaucoup trop tôt pour moi, je n'ai pas l'âge. Mais mettre un pied dans une partition un peu plus lyrique pour avancer, travailler, c'est le but.
Et justement, comment avez-vous envie de le faire évoluer, votre répertoire ? Vous venez de dire « je n'ai pas l'âge pour chanter cette musique », ce qui veut dire que vous avez conscience des possibilités actuelles, mais j'imagine que vous vous projetez également dans le futur, dans un futur plus ou moins proche ou plus lointain. Quels sont les rôles que vous aimeriez progressivement aborder ?
Si on parle d'une opinion, de mon opinion, forcément, j'aimerais aller vers quelque chose de beaucoup plus lyrique, et donc un vrai soprano lyrique. Pour l'instant, à 23 ans, je suis plutôt autour de la tessiture soprano lyrique léger. Ça, c'est un travail que je fais avec mon professeur, Christian Papis. On travaille beaucoup tous les deux sur cette question-là. C'est pas facile de parler du futur comme ça, surtout quand il s'agit des voix. Elles mûrissent de leurs propres ailes. C'est on n'est pas maître, en fait, de cette maturité-là. Donc, on verra ce que le futur me propose. Mais oui, j'aimerais beaucoup aller tendre vers des rôles plus lyriques. C'est pour ça que petit à petit, je fais mon travail, j'essaie de voir comment réagit ma voix aussi à tout ce que je peux lui donner, et puis on verra, advienne que pourra.
Voilà, donc en ce moment, c'est Mozart, et Mozart, cela fait du bien.
Ah oui, ça c'est sûr, Mozart, ça fait toujours du bien.
Merci beaucoup, Laurane Oliva.
Avec grand plaisir, merci à vous, Laure.
C'était le 15 septembre dernier au Théâtre des Champs-Élysées lors de son triomphe à la Paris Opera Competition et sous les micros de Radio Classique. Accompagné par les frivolités parisiennes sous la direction de Victor Jacob, la soprano Laurane Oliva avait chanté notamment cet air des Puritains de Bellini. Laurane Oliva, que l'on a entendu également tout à l'heure dans le fameux air de Pamina de la Flûte Enchantée, accompagnée au piano par Celia Onetto Ben Saïd, et puis dans un extrait du Retour d'Ulysse de Claudio Monteverdi, aux côtés d'Emeke Barat et avec l'ensemble Gemelli sous la direction d'Emiliano González Toro. Elle est donc en ce moment et jusqu'à dimanche à l'affiche de cette petite flûte dans la mise en scène de Julie Depardieu, version abrégée d'une heure et demie environ avec une dimension participative de la Flûte Enchantée de Mozart, l'idéal pour faire découvrir l'opéra aux plus jeunes, et cette production sera donnée ensuite à Tourcoing et à Bordeaux.
Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Alors ce soir, une jeune chef d'orchestre en route vers un possible grand chelem.
Et oui, elle s'appelle Marie Jacquot, mais non, elle n'est pas suffisamment reconnue en France encore. Les choses pourraient bien changer d'ici quelques semaines, car à 33 ans, la jeune femme, originaire de Chartres, mais qui mène surtout une carrière en Allemagne depuis maintenant presque 10 ans, a été nommée pour les prochaines Victoires de la musique classique. Ce sera dans la catégorie des révélations chef d'orchestre. Et si elle décroche le précieux sésame à l'issue de la cérémonie qui aura lieu le 29 février prochain à Montpellier, eh bien elle pourra se vanter d'avoir réussi en l'espace d'à peine 2 ans un parcours sans faute, parcours effectivement aux allures de grand chelem, puisque Marie Jacquot vient d'être successivement nommée, accrochez-vous, première chef invitée des Wiener Philharmoniker, c'est à partir de cette saison, mais aussi chef principale de l'Orchestre Royal du Danemark à l'Opéra de Copenhague. Elle prendra ses fonctions à la rentrée prochaine pour une durée d'au moins 5 ans, et comme si tout cela ne suffisait pas pour nous convaincre que Marie est l'une des plus prometteuses baguettes française de sa génération, eh bien on apprenait il y a une semaine tout juste sa nomination au poste de directrice musicale de l'Orchestre de la Radio de Cologne, une tribune ô combien prestigieuse, puisqu'elle y succédera en 26 à Christian Macellaru, l'actuel directeur de notre Orchestre National, et que parmi ses prédécesseurs, eh bien se trouvent quelques monstres sacrés de la direction, comme Semyon Bychkov ou encore Christophe von Dornani.
Et pourtant, la direction d'orchestre n'était pas le premier choix de Marie Jacquot. Hein.
Eh bien non, et c'est ça le plus fou. Au départ, Marie avait choisi le tennis, et c'est vers une carrière de joueuse professionnelle qu'elle avait choisi de s'orienter. Enfant, elle avait débuté le sport et la musique exactement au même âge, à l'âge de 5 ans, grâce à la bienveillance de parents qui ne voulaient pas que leurs enfants aient à choisir entre les deux. Eh bien pour Marie, ce sera piano et tennis. À 10 ans, elle lâche le clavier, peut-être un peu trop solitaire, un peu trop sur le devant de la scène, pour un instrument un peu plus en coulisses, ce sera le trombone. Sorbonne, dont elle est tombée amoureuse pendant un concert d'harmonie. Mais la raquette aussi l'a prise dans ses filets. Notre Mauresmo en herbe arpente les cours de long en large et en impose sa dextérité. L'entraîne jusqu'à l'Open de France, figurez-vous. Mais à l'âge de 15 ans, eh bien, elle a pour ainsi dire la révélation. Elle réalise qu'au niveau de tennis, où elle vient d'arriver, la compétition l'emporte désormais sur son plaisir de jeu. Et ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Jeu, set et match, sa vie sera désormais la musique. Cham au lycée Racine à Paris, cours de trombone au CRR. Et lorsqu'elle revient à Chartres le week-end, cours de direction d'orchestre avec Roberto Gatto. C'est ce dernier qui l'orientera vers Vienne, où elle part à l'âge de 19 ans pour s'y former définitivement à la direction. Après quelques années dans la capitale autrichienne, eh bien c'est à Weimar qu'elle parachèvera sa formation à la Haute École de Musique Franz Liszt.
Et si c'était à refaire?
Eh bien alors, elle referait exactement tout pareil, car elle l'assure, le tennis lui a beaucoup appris pour la musique et a forcerie la direction, à commencer par l'indépendance des deux bras, mais aussi naturellement la discipline, l'exigence, le haut niveau de préparation, sans parler du mental, et Dieu sait s'il en faut, pour se retrouver du jour au lendemain face à une phalange qu'on n'a encore jamais dirigée. Mais par-dessus tout, eh bien c'est l'expérience du coaching qui pour elle est le plus important, l'idée de compagnonnage avec quelqu'un qui vous apporte ses idées, vous aide à grandir, à améliorer votre jeu, une idée finalement assez proche de sa vision idéale de la direction d'orchestre, direction plus collégiale et démocratique qu'autocratique, et qu'elle entend bien appliquer également à Copenhague et Cologne, comme elle le fait depuis 3 saisons déjà à l'Opéra de Düsseldorf où elle officie en tant que Kapellmeisterin, en attendant, qui sait, peut-être une nomination à la tête de l'une de nos phalanges nationales dans les saisons à venir.
Le début du final du concerto de Clara Schumann avec la pianiste Louisa Imord et l'orchestre philharmonique de Brême dirigé par Marie Jacquot, dont vous nous avez tracé le portrait cette semaine. Thierry, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec une autre chef, avec deux F, chef d'orchestre, Déborah Waldman. Elle sera notre invitée, mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.